Bienvenue à l'église au cœur de la ville. Nous vous souhaitons de passer un agréable moment à l'écoute de ce message.
On est donc dans le cadre de la série sur la plénitude. Et aujourd'hui, on va aborder la plénitude de l'esprit. On va faire une lecture dans le livre, ou plutôt l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5, du verset 16 au verset 21, et je vous fais la lecture dans la traduction « Parole vivante ». Comportez-vous en gens avisés qui se rendent compte en quel temps critique nous vivons. Je trouve que c'est bien d'actualité pour nous. Et savent en tirer le meilleur parti le meilleur parti de la période présente. Devenez maître de votre temps. Est-ce que vous êtes les esclaves de votre temps ou les maîtres de votre temps, que vous savez bien gérer votre temps? Devenez maître de votre temps, profitez de toutes les occasions favorables, malgré les difficultés de l'heure. Oui, précisément, parce que nous vivons en un temps où domine le mal. C'est pourquoi, ne soyez pas déraisonnables et imprudents. Ne vivez pas en dilettantes. Ne vivez pas comme des amateurs. Voilà, soyez comme des professionnels. Ne vivez pas en dilettantes, mais à travers tout ce qui vous arrive, en toutes circonstances, cherchez à comprendre ce que le Seigneur veut vous dire. Puis tenez-vous fermement à ce qu'il vous demande. C'est la voie qui mène à une vie de plénitude. Ne cherchez pas l'ivresse que produit le vin. Cela mène à une vie déréglée, au libertinage et à la perdition. Mais buvez à longs traits à la coupe de l'esprit. Laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit, et cherchez en lui votre plénitude. Comment ? Que votre joie déborde dans vos entretiens fraternels, qu'elle s'exprime par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés. De tout votre être, chantez et jouez pour Dieu, et que du secret de votre cœur, une musique s'élève sans cesse vers lui. Où que ce soit, à tout moment et pour toute chose, apportez à Dieu le Père l'hommage de votre reconnaissance au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Par respect pour le Christ, prenez chacun votre place dans l'ordre établi, vous soumettant les uns aux autres. Amen. Franchement, je pourrais m'arrêter là. Parce que comprendre rien que ce qu'on vient de lire là, et le réaliser pleinement, c'est tellement plein de choses, c'est la voie qui mène à la plénitude. Buvez à longs traits à la coupe de l'Esprit, laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit et cherchez en lui votre plénitude. Dans la poursuite de notre série sur la plénitude et après avoir partagé ensemble sur la plénitude de la grâce la semaine dernière, nous allons aborder aujourd'hui la plénitude de l'esprit. Pourquoi est-ce important de nous entretenir sur la plénitude du Saint-Esprit? Charles Spurgeon avait écrit « Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes comme des voiliers quand il n'y a pas de vent, ou comme des carrosses sans chevaux. » Ça ne sert à rien. Nous sommes aussi secs que des branches sans sève, aussi inutile que des charbons sans feu. Qu'est-ce qu'on fait avec un charbon? Si on n'y met pas le feu, il ne sert à rien. À la lecture de cette citation de Spurgeon, nous pouvons sans difficulté comprendre la nécessité de notre vie, ou plutôt de vivre notre vie spirituelle dans la dimension du Saint-Esprit. J'ajouterai même, comment pourrait-il en être autrement? Le Saint-Esprit a souvent été le grand oublié du christianisme pendant des siècles et des siècles et des siècles. On ne savait pas trop qui il était. Et puis le pentecôtisme, il y a 100 ans, a quelque part remis en avant la personne du Saint-Esprit. Il y a eu ce qu'on appelle comme un réveil spirituel qui a redonné place à l'Esprit-Saint dans l'exercice du culte, dans la vie personnelle des croyants, etc. Et on peut évidemment remercier Dieu de cette remise en place du Saint-Esprit dans l'ensemble de la théologie chrétienne et de la foi des chrétiens. Seulement, avons-nous réellement compris quelle est la place du Saint-Esprit dans nos vies et comment nous devons nous situer par rapport à l'Esprit-Saint? En tout cas, sans lui, on n'est pas grand-chose. À ce propos, l'apôtre Paul écrivait dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 9, dans la parole vivante aussi, la traduction parole vivante, « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, c'est-à-dire le Saint-Esprit, en lui, il ne fait pas partie des siens. Ce n'est pas un vrai chrétien. » La relation du chrétien au Saint-Esprit est d'une importance capitale. Le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est l'Esprit-Saint à l'action. C'est en parcourant les Écritures que nous découvrons l'étendue de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie des croyants. Mais nous le découvrons avec une réalité encore plus personnelle quand nous en faisons nous-mêmes l'expérience dans notre propre vie. Oui, on lit, on va dans les Actes des Apôtres, on regarde, qui est à mon avis plus les Actes du Saint-Esprit que des Apôtres, si on était tout à fait logique avec le titre, parce que les Apôtres n'ont fait que ce que le Saint-Esprit a poussé dans leur vie à faire, et c'est vraiment les Actes du Saint-Esprit. Eh bien, si on lit les Actes des Apôtres, si on lit la Bible, on voit des choses se produire, ô combien merveilleuses et glorieuses. Mais quand on les vit soi-même, lorsqu'on les expérimente soi-même, ça prend encore une autre dimension dans nos vies. Le Saint-Esprit est celui qui communique les vérités de Dieu. Il est celui qui sonde le cœur de Dieu. Nul autre que lui ne peut sonder le cœur de Dieu. Au sein de la divinité, Père, Fils et Esprit Saint, excusez-moi de l'expression, mais c'est une expression théologique, ils se compénètrent, c'est-à-dire ils pénètrent à l'intérieur l'un de l'autre. Ils se sondent l'un l'autre au sein de la Trinité. Il y a une communion entière et parfaite. Jésus dira que le Saint-Esprit sonde le cœur de Dieu en permanence. Il est lui seul qui peut nous révéler ce qui est dans le cœur du Père. Le Saint-Esprit est celui qui communique les vérités de Dieu afin de nous convaincre. Oui, on a besoin d'être convaincus. Il y a des choses qui luttent en nous et il faut une puissance de conviction qui vient pour renverser ces choses. Il y a des croyances en nous qui sont des fois pas les bonnes. Il faut que le Saint-Esprit vienne avec une puissance de conviction pour renverser ces choses. Il vient avec des arguments clairs et suffisants. Et il vient nous amener à réaliser que nous sommes pécheurs. Ainsi, en répondant favorablement à cette conviction de péché qui nous conduit directement à Jésus-Christ, notre Sauveur, nous recevons le salut de nos âmes. C'est donc par le Saint-Esprit que Dieu nous régénère et nous fait naître de nouveau. Et là, on se rend compte que le Saint-Esprit, ce n'est pas une option de la vie chrétienne. Ce n'est pas le grand inconnu et on ne sait pas trop ce qu'il fait. Dans l'Épître de Tite, au chapitre 3, versets 4 et 5, il est écrit « Mais quand Dieu, notre Sauveur, a révélé sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. » S'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste. Non. Il nous a sauvés parce qu'il a eu pitié de nous, en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Donc il y a l'action du Saint-Esprit qui nous a régénérés, qui nous a fait naître de nouveau, qui nous a attirés jusqu'au Seigneur. Une fois que nous sommes sauvés, nés de nouveau, nous appartenons à Dieu. L'Esprit vient demeurer dans nos cœurs pour toujours, nous confirmant, nous garantissant et nous attestant que nous sommes ses enfants pour toujours. Épître de Paul aux Galates, chapitre 4, verset 6, vous pourrez aller le lire. Le Saint-Esprit est alors pleinement investi dans notre vie. Je ne sais pas si tu es investi dans ta propre vie spirituelle, mais sache que le Saint-Esprit, s'il est en toi, il est super investi. À ce propos, Jésus a dit qu'il nous enverrait l'Esprit pour qu'il soit notre aide, notre défenseur ou notre avocat, et notre guide. Jésus nous a donné l'Esprit en compensation de son absence, pour exercer envers nous les fonctions qui auraient été les siennes, s'il était toujours là physiquement au milieu de nous. S'il était resté au milieu de nous, Jésus nous enseignerait encore. Et le Saint-Esprit est là pour nous enseigner, pour nous conduire, pour nous guider, pour nous encourager, pour nous motiver. Il poursuit le ministère du Christ. Certains disent, ah, qu'est-ce que ce serait bien si Jésus était encore au milieu de nous. Mais il continue à l'être au travers du Saint-Esprit. Il continue à agir au travers de l'Esprit-Saint. Il poursuit son œuvre. Et d'une manière encore plus globale, parce qu'il n'est pas restreint physiquement à un lieu, en tout lieu. Il poursuit son œuvre sur toute la terre. Ainsi, le Saint-Esprit agit dans le but de nous révéler la vérité, de nous enseigner toutes choses. Entre autres, la présence de l'Esprit en nous nous permet de comprendre et d'interpréter la parole de Dieu selon Dieu. Pourquoi aujourd'hui il y a tant de théologie? Pourquoi aujourd'hui il y a tant d'interprétations de l'Écriture? Parce que vous avez une quantité d'hommes, de femmes qui sont allés essayer de comprendre la Bible sans le Saint-Esprit. Avec leur intelligence, avec leur concept, avec leur philosophie, avec leur conception, ils ont essayé de rationaliser, d'étudier, de disséquer, de découper avec des méthodes pour essayer de comprendre. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu peux toujours essayer de comprendre. Tu passeras à côté. Seul le Saint-Esprit peut nous révéler l'Écriture dans les volontés, les désirs et les souhaits pour lesquels Dieu l'a inspiré. Le Saint-Esprit agit dans le but de nous révéler la vérité, de nous enseigner toutes choses. Entre autres, la présence du Saint-Esprit en nous nous permet de comprendre et d'interpréter la parole de Dieu selon Dieu. Jésus a dit à ses disciples dans Jean chapitre 16, verset 13, « Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière. » Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière. Le Saint-Esprit agit pour notre bénéfice et toujours dans le but de la gloire de Dieu en révélant à notre esprit tout le conseil de Dieu, que cela soit pour l'adoration, parce que Dieu veut être adoré mais pas n'importe comment. On n'adore pas Dieu comme on adore l'OM. D'ailleurs, des fois, on se demande si certains n'adorent pas plus l'OM que Dieu. On n'adore pas Dieu comme on adore une star du show business. Rien ne doit être comparable à l'adoration de Dieu dans nos vies. Et rien ne doit être l'objet d'adoration dans nos vies à part Dieu quand on est chrétien. C'est lui qui nous conduit dans l'adoration. C'est lui qui nous fait comprendre ce qu'est le culte. Lorsque j'étais en train de faire mes études, j'ai voulu étudier sur qu'est-ce que le culte pentecôtiste à la lumière des Écritures. Et la question que je me suis posée, c'est si Jésus et l'apôtre Paul rentraient dans notre église un dimanche matin, est-ce qu'ils diraient « Mais ils font quoi là ?» Ou est-ce qu'ils diraient « Ah, c'est bon, ils ont compris. Ils savent ce que c'est un culte d'adoration. Ils ont réalisé. » Et j'y retrouve tous les éléments importants qui doivent se retrouver à l'intérieur du culte. C'est lui qui nous conduit dans le véritable culte, dans la doctrine et dans l'ensemble de la vie chrétienne. Il est notre guide suprême qui marche devant nous, nous montre le chemin, aplanit les obstacles, nous ouvre l'intelligence, nous éclaire sur toutes choses et nous rappelle sans cesse la parole de Dieu en nous ramenant toujours à elle. Un point crucial de la vérité est qu'il nous révèle qui est Jésus-Christ. Et surtout que Jésus est bien celui qu'il affirmait être. Ainsi, l'Esprit Saint nous convainc de la divinité de Christ, de son incarnation, de sa messianité, de sa souffrance et de sa mort, de sa résurrection et de son ascension, de son élévation à la droite de Dieu et de son rôle de juge de tous. C'est le Saint-Esprit qui met ça dans nos cœurs. Il donne gloire à Christ en toutes choses. Dans Jean chapitre 16, verset 14, il est dit « Il, le Saint-Esprit, me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. » Nous venons de partager certaines activités essentielles de l'Esprit-Saint dans la vie des chrétiens. Entre le moment où on ne sait rien des choses de Dieu, voire même on est hermétique ou rebelle, et le Saint-Esprit commence une œuvre de conviction en nous. Jusqu'au moment où il va produire la régénération dans nos vies, nous faire naître de nouveau, le salut va être acté et il va, à partir de là, nous révéler les mystères cachés, nous amener à la compréhension de la parole de Dieu et nous permettre d'aligner nos vies sur ce qui nous est révélé. On a partagé les activités essentielles de l'Esprit-Saint dans la vie des chrétiens qui sont appelés à vivre par l'Esprit, comme Paul le mentionne dans Galates 5, 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Mais vivre par l'Esprit et marcher par l'Esprit, c'est bien plus que de recevoir le Saint-Esprit afin de naître de nouveau. C'est bon, je suis né de nouveau, bah maintenant j'avance comme je veux. Non ! Bien sûr que non. Cette expérience de la nouvelle naissance, tous les vrais croyants l'ont faite. Un vrai croyant, un vrai chrétien, il est né de nouveau. Mais combien d'entre nous demeurent encore dans une vie sans puissance et sans victoire? Combien se refroidissent dans leur amour pour le Seigneur et luttent encore quotidiennement avec des passions avilissantes? Combien? Des manifestations incontrôlées de leur caractère? Des émotions harcelantes, des sentiments qui devraient être éprouvés et non plus convoités. Combien? Et ma liste n'est pas complète. Et déjà, si on se pose des questions là-dessus, il y a plein de choses sur lesquelles on doit réagir. La Bible nous donne le témoignage de chrétiens qui étaient restés à l'état charnel. Chrétiens, mais encore charnels. On ne peut pas dire « parce que tu es chrétien, tu n'es plus charnel ». Moi, je suis toujours dans la chair, vous savez. Mais ces chrétiens étaient restés à un état charnel. Et la Bible nous en rend le témoignage. Et ils empêchaient par leur infidélité le Seigneur de les faire grandir spirituellement. Parce qu'ils se maintenaient dans un état de chrétien charnel, immature en la foi et en l'esprit. Ils bloquaient le principe de maturité dans leur vie. Regardez ce que Paul va dire. Dans la première épître aux Corinthiens, puisque c'est donc des Corinthiens dont il s'agit, et quand vous lisez l'épître aux Corinthiens, vous vous rendez compte que pour être immature, ils étaient immatures. Ils confessaient Jésus, mais je pense que le pasteur de l'église de Corinthe, il devait en faire des entretiens de relations d'adultes. Il devait en voir des gens dans son bureau, puis il avait des gros dossiers. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 2, toujours en parole vivante, ça aide à être plus clair dans l'esprit de beaucoup parce que c'est très dense dans les explications des versets. « Cependant, frères, il ne m'a pas été possible de vous communiquer ces vérités spirituelles. » Donc Paul dit « Il y a des vérités spirituelles, je ne peux pas vous les communiquer. Vous en êtes privés. Pourquoi ? Car je n'ai pas pu m'adresser à vous comme à des hommes, on pourrait dire aussi des femmes, remplis de l'esprit. » Paul fait un constat. Les Corinthiens, vous êtes chrétiens, mais vous n'êtes pas remplis de l'esprit. Et à partir de là, je ne peux pas vous annoncer certaines vérités de la parole. J'ai dû vous traiter en être dominé par les réalités terrestres. Et vous parler sur un plan purement humain. Parce que dans vos relations avec le Christ, vous étiez encore au stade de nourrisson. C'est pourquoi je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Car vous n'auriez pas pu l'assimiler alors. Que dis-je ? Aujourd'hui même, vous êtes encore incapable de la supporter. Pourquoi ? Parce que vous vivez toujours sur un plan essentiellement terrestre. Vous ne vivez pas encore sur un plan céleste. Obéissant aux impulsions de votre être naturel. C'est votre chair qui gouverne. C'est elle qui dirige. C'est elle qui réclame C'est elle qui est sur le trône. C'est elle qui commande. La question, je pourrais vous la poser ce matin. Vivez-vous toujours sur un plan essentiellement terrestre, obéissant aux impulsions de votre être naturel ? À chacun de répondre à cette question-là. Pour sortir de cet état, la plénitude de l'esprit est indispensable. Mais peut-être que vous vous dites, comment recevoir cette plénitude de l'esprit ? Et puis, quels en sont les résultats, en finale ? C'est l'objet du deuxième point du message de ce matin. Recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Si nous revenons à notre texte d'introduction, la traduction Louis II de ce texte, c'est peut-être les Bibles que vous avez, voire d'autres traductions du verset d'Éphésiens 5:18, ne communiquent pas, à mon sens, le véritable le sens des mots grecs. La bonne traduction. Louis II a traduit par « Soyez au contraire remplis de l'Esprit ». Alors qu'il serait plus juste de traduire par « Laissez-vous constamment remplir par l'Esprit ». Est-ce que vous faites la différence entre « Soyez au contraire remplis de l'Esprit » et « Laissez-vous constamment remplir par l'Esprit ». Dans l'un, c'est presque à moi de le faire. Dans l'autre, c'est plus à moi de laisser faire. Dans ce verset, être rempli de l'esprit, dans la conjugaison du verbe grec, être rempli, il est à l'impératif. L'impératif, ça dit quoi ? Vous avez été un peu à l'école. C'est un ordre. C'est pas une suggestion. C'est pas une recommandation que Paul fait. Paul dit pas, si vous voulez, soyez rempli de l'esprit. Non, non. C'est un ordre divin communiqué par un apôtre. C'est un ordre qui nous vient directement du Christ. Et nous devons réaliser que la plénitude de l'Esprit a un caractère obligatoire et non facultatif. Ah, ce serait bien si j'étais rempli de l'Esprit, j'aimerais bien. Mais quoi ? T'as pas à l'aimer ? C'est un ordre dans la vie spirituelle. Tu dois être rempli de l'Esprit. Ah oui ? Oui. Le verbe « être rempli » est au pluriel. C'est pas « sois rempli » mais « soyez rempli ». C'est un pluriel. Et cet ordre est évidemment adressé à tous les chrétiens. Chaque chrétien doit être rempli de l'Esprit. Ah ouais ? John Stott dira, la plénitude de l'Esprit Saint n'est pas un privilège réservé à quelques-uns. Hein. Ah eux, ils sont spirituels. Hein. Moi non, je suis pas très spirituel. Moi. C'est pas un privilège que Dieu réserve à quelques-uns. Mais bien un devoir incombant à tous. Comme l'obligation de sobriété et de maîtrise de soi. Ne soyez pas remplis de vin. C'est une interdiction, hein, c'est pas un conseil. La maîtrise de soi. L'ordre de rechercher la plénitude de l'esprit s'adresse à tout le peuple de Dieu sans exception. Le verbe être rempli est au passif. C'est soyez rempli. Ce qui revient à dire laissez l'esprit vous remplir. C'est pas à l'actif, c'est pas à nous de le faire. Nous, on a juste à le recevoir. On ne peut rien faire pour être rempli de l'esprit parce qu'on ne peut obliger Dieu à nous remplir. Comprenez-vous que une des conditions essentielles de la plénitude de l'esprit, c'est un abandon confiant et sans réserve du croyant. La plénitude de l'esprit se fait lorsque je m'abandonne dans la foi à Dieu et à son esprit. Ce n'est pas une volonté de contrôle, c'est un abandon. C'est une capitulation, comme je l'ai entendu ce matin dans le don spirituel. Malgré la condition d'abandon, ne croyez pas que vous recevrez l'Esprit Saint dans une passivité totale. Le parallèle avec le fait de ne pas s'enivrer de vin doit nous conduire à comprendre que si un homme s'enivre en buvant, c'est aussi en buvant à la source que nous obtenons la plénitude de l'Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, dit Paul dans Éphésiens. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Comment tu fais pour être ivre ? Faut boire. Et plus tu bois, plus t'es ivre. Jusqu'à temps que tu sois plein. Et là, tu dis,
c'est bon, je suis plein.
Ne soyez pas remplis de vin. Ne vous enivrez pas de vin. Mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Ça ne suppose pas une passivité totale. Enfin, le verbe être rempli est au présent exprimant non pas une action ponctuelle, mais une action qui est continue. C'est-à-dire, soyez pas remplis du Saint-Esprit, puis après c'est bon. Beaucoup des chrétiens de nos églises de Pentecôte pensent que je viens à l'église, je me branche, je suis rempli, c'est bon, je peux repartir dans le monde. Je vais faire ma vie de mère, ma vie d'employé, ma vie de père, ma vie de... Puis un seul coup, ah, je sens que là je redeviens faible. Vite, vite, je retourne à l'église. Et je me branche. Ou je recherche un séminaire, ou je recherche une rencontre de jeunesse pour aller me remplir. Sincèrement, ça là, ça n'a rien à voir avec la plénitude de l'esprit. C'est une mauvaise compréhension de la vie de l'esprit et de ce que Dieu veut en nous. La plénitude doit donc être toujours maintenue et constamment entretenue. En réalité, je devrais être tout le temps branché. 24, 24, 365 jours par an. Pas que dans les moments spi. Je dois être tout le temps connecté à l'Esprit de Dieu. Tout le temps branché. Il y en a qui ont un ordinateur portable à la maison dont la batterie ne charge plus. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Il faut rester tout le temps branché. Si tu te dis, ouais c'est bon, je retire le câble, pouf, tout s'éteint et tu as perdu tout ton travail. Il faut rester branché. Et nous, les chrétiens, nous avons besoin de rester tout le temps branchés. Paul nous ordonne d'être continuellement remplis de l'Esprit, et pas seulement pour un temps, mais continuellement et à chaque instant. Et cet ordre de Paul peut paraître surprenant. Parce qu'on pourrait se dire, mais les Éphésiens n'avaient-ils pas déjà reçu l'Esprit dans leur vie? Dans Éphésiens chapitre 1er, puisqu'on est dans les Éphésiens au chapitre 5, mais si on revient au chapitre 1er, versets 13 et 14, Paul va dire, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Quand c'est scellé, c'est scellé. C'est-à-dire, vous lui appartenez. Du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, la certitude de notre salut. C'est lui qui nous la donne en témoignant à l'intérieur de nous ce cri de Abba Père. La reconnaissance de la paternité de Dieu sur notre vie. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis. Lui, c'est pas nous qui avons acquis Dieu, c'est Dieu qui nous a acquis. De ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Quand les chrétiens d'Éphèse ont mis leur foi en Jésus-Christ, ils ont reçu cette marque permanente, le sceau de l'Esprit sur leur vie. Si nous sommes chrétiens, l'Esprit de Dieu habite en nous pour toujours. Il ne fait pas « je rentre, je sors, oh, je ne sais pas, oh, il est trop sale, je ne rentre pas ». Il est rentré et il y est. Pour toujours. Quand on parle de la divinité, qu'on parle du Père, du Fils ou de l'Esprit Saint, on va dire « Dieu est pleinement partout, en tout lieu et en tout temps de l'espace. » Le Saint-Esprit est pleinement en moi. Je n'ai pas une partie de l'Esprit en moi. Ou il faudrait que je vienne la compléter au fur et à mesure que je ne fais pas quoi, je ne sais pas ce que je dois faire, mais venir écouter à l'église, avoir une imposition des mains, je reprends un petit bout du Saint-Esprit, et puis à la fin je vais avoir peut-être un plus gros bout du Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit ne se coupe pas en morceaux. Il est pleinement en moi. Mais prend-il toute la place en moi? Il est en moi comme je dois être en lui. En réalité, est-ce que c'est moi qui le contiens? Est-ce que je contiens Dieu ou est-ce que c'est Dieu qui me contient? Ben les deux, mes amis. Comme le sarment est dans le cep et la sève du cep coule dans le sarment, je suis en lui et il est en moi. Mais avec une vision tout à fait humble, j'aime à réaliser que c'est plutôt lui qui me contient que moi qui le contiens. Alors le Saint-Esprit est en moi, dans ma vie, il est présent, pas une partie, totalement. On a souvent dit, le chrétien c'est comme une coupe, même moi j'ai pris cette analogie. Alors, le Saint-Esprit, il vient et il verse dans la coupe. Alors tu as un petit peu de l'esprit. Puis à un moment donné, ça déborde. Et là, tu es rempli de l'esprit et tu te mets à parler en langue, etc. Seulement, il n'y a rien de plus faux. C'est une belle image par rapport à la coupe dans la Bible. Mais une coupe, quand vous la remplissez, elle reste telle qu'elle. La plupart des théologiens aujourd'hui vont dire on est plus comme une baudruche, un ballon, vous savez, que comme une coupe. C'est-à-dire, plus on va remplir, et plus le ballon va s'agrandir, plus il va laisser de place à l'esprit, plus il va prendre de place. Et nous avons besoin, non pas de recevoir plus de l'esprit, mais de libérer davantage l'esprit en nous. C'est pour ça que dans la vie de certains, il a commencé à creuser, à faire sortir des choses. Allez, on va faire sortir là, il y a des choses là, ça m'empêche de prendre de la place. Ça m'empêche de mettre ces vies sur un terrain stable, de les utiliser, de me servir d'elles. C'est pas assez pour pouvoir accomplir ce que j'attends d'eux. Alors il va faire de la place. Élargissez vos cœurs, disait Paul aux Corinthiens. Élargissez vos cœurs. Et nous devons laisser l'Esprit prendre plus de place en nous. Quand les chrétiens d'Éphèse ont mis leur foi en Jésus-Christ, ils ont reçu cette marque permanente, le sceau de l'Esprit. Et si nous sommes chrétiens, l'Esprit de Dieu habite en nous pour toujours. Alors pourquoi avoir besoin d'être rempli de l'Esprit? Je ne vois pas pourquoi on nous exhorte à être rempli de l'Esprit, si l'Esprit est en nous. Le Saint-Esprit n'est-il pas en mesure de nous remplir une fois pour toutes, quoi? Puis qu'on n'en parle plus. Il nous remplit, on bouche. On se met sur une étagère et puis on ne touche plus. L'expérience de la nouvelle naissance ne vient-elle pas combler tous les besoins de nos vies et solutionner tous nos problèmes? Vous avez jamais entendu « les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles ». Puis toi, 3 ans après, tu es encore dans des choses anciennes qui ne sont pas passées en fait. Et tu te dis « mais c'est quoi ce truc-là ? » Moi, je croyais que c'était passé. Si la nouvelle naissance nous confère un statut nouveau, nous fait passer d'une réalité à une autre, d'un royaume à un autre. Elle ne nous rend pas inactifs ou passifs, comme si nous avions enfin atteint l'état de perfection céleste qu'il nous faudrait conserver sans rien faire de plus que de préserver un contenu. Il faut juste maintenir les choses en l'état. Maintenant, c'est bon, il nous a remplis et on ne touche plus. Il n'existe pas non plus un bouton sur lequel nous pourrions appuyer pour être automatiquement remplis de l'esprit. Il y en a un qui l'a, le bouton, là? Non? Aucune station-service ou distributeur de plénitude ne sont à notre disposition. Il n'existe pas une formule magique ou une recette infaillible pour nous remplir. Nous devons être actifs à rechercher ce remplissage. Et c'est pas parce qu'on fait une réunion spéciale pour moi c'est pas très biblique ça, on va rechercher le Saint-Esprit. On sait pas où il est, on le recherche. Mais il est présent partout. Qu'est-ce qu'on va rechercher? Quelque chose que Jésus a déjà donné. Je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur, il viendra sur vous. Il est là, il a déjà été donné. Pourquoi on dirait Seigneur, ouvre ton ciel et fais descendre l'Esprit? Alors qu'il y a 2000 ans qu'il est descendu. De telles déclarations viennent nous influencer d'une manière qui est, à mon sens, pas biblique. C'est pas tant quelque chose à recevoir que quelque chose à réaliser dans nos vies, à libérer dans nos cœurs. Entrer réellement dans la dimension de ce que Christ a fait à la croix. Et pas d'être toujours en « j'attends de recevoir quelque chose que je ne sais pas quand ça va arriver ». On doit être actif, c'est-à-dire avoir soif. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a soif, d'une soif spirituelle. Nous ne pouvons pas le produire par nous-mêmes, on peut juste avoir la soif, nous. De même, nous ne pouvons pas forcer Dieu à nous remplir. Dieu agit quand il veut, comme il veut, il est souverain. Et en tout cas, réalisons que c'est le Seigneur à qui en est le seul mérite de la venue de l'Esprit sur l'Église et sur les croyants. En rapport de son œuvre à la croix et de sa résurrection, c'est lui qui dispense sur nous ce don gratuit et merveilleux. Luc 24, 49, Jésus dit « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis ». C'est une réalisation prophétique qui découle d'une volonté de Dieu le Père. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Mais le don de l'Esprit et la plénitude qu'il désire mettre en nous n'est pas centré sur nous. Nous n'en sommes pas en réalité la finalité, comme trop de chrétiens le pensent faussement. Pasteur, moi je voudrais être rempli du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que c'est bien, non ? On est bien après. Ça vient nous équilibrer et on n'a plus les mauvaises pensées. Est-ce que vous croyez que Dieu a envoyé son esprit sur nous juste pour qu'on soit bien ? Pour que dans les réunions, je carbure au Saint-Esprit, pasteur. Oh, je ne sais plus où je suis là. Oh, j'ai des frissons de partout. Vous croyez qu'il a envoyé le Saint-Esprit pour qu'on kiffe ? Ben non. J.L. Packer a dit « Le ministère du Saint-Esprit n'est pas de nous donner des sensations fortes, mais de créer en nous le caractère christique, le caractère de Christ. » Il va mettre en nous le fruit de l'Esprit, mettre le caractère du Christ dans nos vies. Il va nous remplir de cette plénitude. Mais pourquoi faire alors si ce n'est pas pour qu'on soit bien ? C'est quoi l'objectif divin de Dieu ? L'objectif divin dans le don de l'Esprit Saint est de faire de nous des témoins. Ce n'est pas pour qu'on dise « Ah ben moi je suis un chrétien rempli de l'Esprit. Hein. » On est trop bien quand on est rempli de l'Esprit. Hein. « Ah, je ne vois plus la vie pareille maintenant. » C'est bien, mais ce n'est pas le but. C'est fait pour faire de nous des témoins de Christ et des adorateurs du Père. Acte 1, 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Il n'a pas envoyé le Saint-Esprit pour rien. Oui, pour nous faire naître de nouveau. Oui, pour nous expliquer les Écritures. Mais l'objectif final, c'est de faire de nous des témoins. Jean 4, 23. « Mais l'heure vient, dit Jésus, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. On ne peut pas adorer Dieu sans l'Esprit de Dieu en nous. » D'ailleurs, on pourrait se poser la question, quand je ne suis pas plein, est-ce que j'adore bien ? Et combien de fois, peut-être, as-tu adoré en étant « Allez, je suis gentil, à moitié vide. » Pourquoi ? Parce qu'il faut le faire. Mais est-ce la vraie adoration que le Père désire ? Est-ce que le Père veut voir des chrétiens à moitié pleins ou débordants ? De plus, c'est Christ qui nous a mérité le don gratuit du Saint-Esprit, incluant tous les remplissages quotidiens dont nous avons besoin. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici ce matin. On est rassemblés pour le remercier de ce don précieux et pour être encore remplis du Christ et de son Esprit, pour être capable de répondre à son appel, de l'adorer en vérité et aussi d'affronter, bien sûr, les réalités quotidiennes, nos réalités quotidiennes, en attendant le jour de la grande plénitude intarissable dans la gloire éternelle. Roy Esson, j'aime bien ce qu'il écrit, cet homme. Il a écrit un truc sur la croix du calvaire, c'est juste magnifique, le chemin du calvaire, ça s'appelle. Et Roy Esson va dire, La plénitude de l'esprit n'est pas la récompense de notre fidélité. T'es fidèle, alors je te remplis. Mais le don de Dieu pour notre défaite. Est-ce que vous comprenez ? On n'a pas réussi à répondre à ce que Dieu veut. Nous ne sommes pas à la hauteur de sa sainteté, de ses exigences. Et le Saint-Esprit ne nous a pas été donné comme une récompense parce qu'enfin je suis un bon chrétien, donc ça y est, il peut verser là. Ça y est, j'ai un peu lavé là, alors donc maintenant il peut me remplir. Non, il n'a pas été donné pour une récompense. Crois pas que tu as été rempli de l'Esprit, que l'Esprit est venu sur ta vie pour te récompenser de quoi que ce soit. Il est venu parce que tu es en état de défaite. Parce que toi-même, tu ne pouvais pas y arriver. Dieu a pourvu à ce que tu ne pouvais pas faire. Il n'a pas été donné aux disciples en acte 28, à la fin du livre des actes. C'est bien, vous avez bien travaillé, mes apôtres. Je vous envoie l'esprit. Non. Il est arrivé à quel moment? Dès acte 2, dès le début. Il arrive. Il est donné. Quand ils venaient de faire preuve de lâcheté, réunis derrière les portes de leur maison, craignant le pouvoir romain, le Messie, le Maître, a été crucifié. Que va-t-il nous arriver? Ils étaient enfermés, ils avaient peur. Ils avaient peur de la persécution. Ils étaient en état de défaite, c'en était fini des disciples de Jésus-Christ. Le Maître avait été condamné, terminé. Les disciples d'Emmaüs, ils repartaient la tête en bas. C'est fini, fini, terminé. On ne parlera plus du christianisme. Et le Saint-Esprit est venu. Et là, ils se sont levés comme un seul homme. Et ils ont repris l'étendard de l'Évangile. Ils ont relevé le drapeau et ils ont dit, nous irons jusqu'au bout. Et que Dieu soit béni pour le Saint-Esprit qui ne nous a pas laissés dans la défaite, mais qui nous a fait entrer dans la vie de victoire. En réalité, nous avons sans cesse besoin de nous remplir parce que nous nous vidons sans arrêt. Je vais te dire, mon frère, tu n'es pas seulement ouvert à être rempli de l'esprit. Le problème, mon frère, ma sœur, c'est qu'il y a un trou par lequel ça s'échappe. On se vide sans arrêt de notre substance spirituelle. L'expérience de la vie chrétienne nous permet de dire que ce que Dieu remplit d'un côté, nous constatons que ça se vide de l'autre. Non ? Parce que nous sommes constamment en lutte avec certaines habitudes pécheresses. Parce que nous sommes en proie avec nos faiblesses tellement décourageantes et épuisantes que nous sommes souvent dépassés par le souci du quotidien qui nous environne et que nous vivons au cœur d'un monde dont les courants puissants sont contraires à ceux de l'Esprit de Dieu. Alors, nous faisons le constat de réelles pertes. D'une sorte de vidage ou de siphonnage. Ça va mon frère, t'es plein ? Non, je me suis fait siphonner là. Je suis passé par un moment là, ça a été dur mon frère, tu vois. Et là, la vie de l'esprit, là, le niveau il a baissé quoi. Nos ressources spirituelles sont pompées dans la vie qu'on mène. C'est pourquoi si nous ne prenons pas soin d'être remplis continuellement de l'esprit, nous allons finir par nous retrouver complètement à sec. Nous perdrons nos forces spirituelles. La preuve, nous nous attiédissons parfois dans la foi et dans l'amour pour Christ. C'est un constat. Où est le feu du premier amour? À cette époque où tu n'avais pas beaucoup de place, mais le Saint-Esprit prenait toute la place. Et puis au fur et à mesure, tu as repris un peu de la place, toi, à l'intérieur. Et le Saint-Esprit, lui, il se resserre, hein, t'as fait rentrer des choses, voire certaines, t'as pas voulu qu'elles sortent. T'as fait du déni. Ah non, 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 moi ça va. Il pointait les choses et toi tu disais, non, non, ça va. Imhotep, ça va. Et c'est dans ces moments-là que l'adversaire en profite pour nous lancer ses traits enflammés. Comprenez-vous maintenant pourquoi nous avons besoin d'être continuellement remplis du Saint-Esprit ? C'est parce qu'à l'autre bout, nous nous vidons continuellement et qu'une vie vidée de l'Esprit-Saint est une cible pour l'adversaire. Alors nous devons, et c'est le troisième point, être constamment remplis. La question que je vous pose ce matin, c'est êtes-vous constamment et actuellement remplis de l'Esprit? Êtes-vous saturé de l'Esprit? Vous prenez une éponge. Vous savez, l'éponge, qui est restée longtemps sans aller dans l'eau, elle s'est rétrécie. Vous la mettez au cœur des problèmes. Là, il y a du vinaigre qui s'est répandu. Vous mettez l'éponge dans le vinaigre. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va l'absorber. Ah, c'est pas bon une éponge remplie de vinaigre. Parce qu'en fait, c'est pas une éponge, c'est votre âme dont je suis en train de parler. Parce que tu étais desséché, tu n'étais pas saturé. Tu t'es retrouvé au milieu du vinaigre et qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as aspiré. Et t'en es plein. Par contre, prenez la même éponge. Trempez-la dans de l'huile. Elle va se gorger de l'huile, qui est le symbole de l'esprit. Et là, mettez une grosse flaque de vinaigre et mettez l'éponge dedans. Qu'est-ce qui va se passer? Elle est tellement saturée par l'huile, elle ne prendra rien du vinaigre. Rien. Il ne pourra pas rentrer. Pourquoi parfois on se retrouve avec des choses dans nos cœurs? Parce qu'on n'est pas plein. Parce qu'on n'est pas saturé de l'esprit. Il y a toujours une petite place pour autre chose. Ben ouais, mais quand l'autre chose, il est rentré, on est mal. En tant que chrétien, nous sommes appelés à être saturés de Dieu. Constamment remplis, parce que nous devrions être constamment en remplissage. On devrait toujours être branchés. Toujours en train de recevoir. Je sais que j'ai des fuites, pasteur, alors je préfère continuer à remplir tout le temps. Comme ça, je suis sûr que jamais je serai à sec. Mais non. Mais je tolère tellement de... Oh, le culte, oh non, j'étais pas disposé, je me suis pas rempli. Ah, t'es plein, toi. Ça va aller, la vie, après. Le vrai baptême de l'esprit suppose une plénitude de l'esprit. Nous devons pas être seulement trempés ou humidifiés. Ah, j'ai été trempé dans l'esprit, humidifié. Mais totalement plein, afin qu'il ne reste pas de place pour autre chose. Plonger dans l'esprit, le mot plonger, c'est baptizo, qui signifie plonger, immerger, submerger. Dans le grec, c'est pas bapto, le mot bapto, il est différent. Il définit aussi l'action de plonger ou de tremper ou d'immerger, mais il parle de quelque chose qui est très bref, de courte durée. Tchoup, tchoup. On le plonge et on le ressort aussitôt. Non! Quand il est dit qu'on doit être immergé dans une vie de l'esprit, plongé dans la plénitude de Dieu, dans le fleuve de Dieu, c'est plonger puis y rester, quoi. La saturation parle d'un remplissage total et permanent, permettant de rassasier jusqu'à l'excès. Je veux que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je veux pas que mes brebis viennent manger dans une écuelle et boire un petit peu d'eau dans un baquet. Je veux qu'elles aient une vie abondante, tout le temps. Qu'elle soit tout le temps remplie. C'est aussi l'état de quelqu'un qui a ce qui lui est nécessaire en surabondance, et il en a tellement qu'il a de quoi déverser sur les autres. Mais si tu n'as déjà pas assez pour toi, comment tu vas pouvoir en donner aux autres? Je veux faire de vous mes témoins. Mais oui, mais pour que ça déborde sur les autres, il faudrait que ce soit plein en toi. Parce que sinon tu vas y aller, tu vas ressortir encore plus vide que quand tu y es allé, hein. Et le but de l'évangélisation, c'est pas d'assécher les chrétiens, c'est de mouiller les incroyants. Dans Jean 4,14, Jésus va dire, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et quand Jésus dit il n'aura jamais soif, c'est parce qu'il sera tout le temps rassasié. Sa soif sera tout le temps rassasié. Il n'aura pas besoin d'aller chercher un endroit pour se remplir. Combien de fois t'as cherché autre chose que Jésus pour te remplir? Combien de fois? Et à quoi t'as été te connecter? Ainsi, la plénitude de Dieu, cette saturation divine, ne nous encombre pas du superflu, mais nous transmet un équipement complet, répondant largement aux besoins que nous pouvons rencontrer et qui ne nous fera jamais défaut. Il nous accorde les dons de l'esprit, le fruit de l'esprit, une abondance de vie. Notre soif spirituelle doit nous amener à être saturés de Dieu. Éphésiens 3,19, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Un chrétien ne peut pas se permettre de dire J'ai reçu le Saint-Esprit, je suis rempli une fois pour toutes, mon réservoir restera plein jusqu'à la fin de ma vie. On ne peut pas dire ça. Ceci est la réponse de l'individualiste satisfait. L'homme spirituel est celui qui a compris la nécessité de rester connecté à la source constamment afin de n'être jamais pris en défaut. La vie chrétienne ne consiste pas à remplir une citerne et à en surveiller le niveau, mais à demeurer attaché à la source divine. Jésus va dire, même la source, elle va être mise en toi. Comment tu peux dire, je suis sec? La plénitude de l'esprit, c'est bien plus que de parler en langue. Ou de faire une collection de dons spirituels. Oh, moi j'ai 6 dons, moi j'ai 3 dons, moi j'ai 2 dons. Pourquoi t'en as 6, toi? Puis il y a le TTS, très très spirituel, moi j'en ai 9, j'ai les 9. J'ai la collection complète. Beaucoup de chrétiens pentecôtistes ont vu le fait de parler en langue comme une finalité de la vie chrétienne, une sorte d'authenticité de leur vie spirituelle. Chrétiens certifiés conformes des églises de Pentecôte. Poum, poum. Il parle en langue. Oh, c'est génial. 2 ans après, tu le vois tomber dans le péché et tu te dis, mais c'est... Il s'imagine à tort avoir reçu une sorte de pouvoir. J'ai le Saint-Esprit, j'ai un pouvoir. Je peux faire des choses maintenant. J'ai la carte de pouvoir, vous savez, dans les jeux des enfants. J'ai la carte du pouvoir. J'ai la tornade, je lance des éclairs, je peux faire plein de choses. Ils imaginent à tort avoir reçu une sorte de pouvoir qu'ils peuvent actionner à loisir afin de parvenir à vaincre toutes les difficultés de la vie. T'as le don de la parole de connaissance, mon frère? Ah non, mais moi je l'ai. Waouh, c'est cool, tu sais tout. Moi, ça marche pas comme ça dans ma vie. Le Seigneur n'a pas fait de moi une diseuse de bonne aventure. Dieu ne se repent pas de ses dons. Croyez que l'esprit peut néanmoins s'attrister en raison de nos inconséquences, de nos manques de communion et de consécration, de nos négligences, et nous laisser ainsi bien démunis et affaiblis dans les combats qui sont les nôtres. On peut avoir le Saint-Esprit et se retrouver en défaite, se prendre des coups par l'adversaire, alors que l'esprit, il est là, à l'intérieur. Trop de chrétiens disent, j'ai dû perdre l'esprit puisque je me suis pris une tôle. Non, non, non. Mais tu lui as pas laissé la place qu'il devait avoir. C'était trop toi qui dirigeais. Et finalement, bah, c'est toi qui as pris la défaite. Rappelez-vous l'exemple de Samson. Il ne savait même pas que l'esprit s'était retiré de lui. Est-ce que l'esprit s'était vraiment retiré de Samson? Mais non, puisqu'on le voit après remporter une grande victoire. En fait, il ne s'était pas retiré, sorti de lui. Il s'était retiré à l'intérieur de lui. Il n'agissait plus comme il agissait auparavant. Samson était privé des forces que le Saint-Esprit lui accordait quand il était rempli. Nous avons besoin d'être remplis chaque jour pour que le Seigneur Jésus règne sur nous et que nous soyons capables de faire sa volonté. Jésus a dit dans Jean 15:5, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Nous avons besoin d'un remplissage quotidien d'Esprit Saint pour avoir non seulement l'énergie d'affronter les défis de la vie, mais surtout pour accomplir la volonté de Dieu et de répondre à son appel. Nous devons sans cesse être remplis de l'Esprit dans un renouvellement quotidien, tous les jours. Tous les jours que Dieu fait. Et c'est parce que nous sommes attachés constamment au Seigneur, comme le sarment au cep, que nous bénéficions de sa sève et donc de son esprit. Imagine, tu prends le sarment. Tu vas faire l'entaille dans le cep. Tu mets le sarment pendant 2 heures, dimanche matin. À 13h, tu coupes le lien, tu le retires. Et là, tu le poses sur la table de la cuisine pendant toute la semaine. Et le dimanche, tu le reprends, tu le remets dans l'entaille, tu le ligotes pendant 2 heures. Et à 13h, le dimanche midi, tu l'enlèves et tu le reposes sur la table de la salle. Est-ce que tu crois qu'il y a du raisin qui va sortir ? Ben non. Et de croire que tu verras 2 heures le dimanche matin pour te connecter au cep et que ça va suffire pour porter des fruits, t'as plus la foi que moi là. C'est pas possible. Ne croyez pas que la vie chrétienne puisse se résumer à venir au culte une fois par semaine et à participer à la Sainte-Cène. La plénitude de l'esprit n'est donc pas le résultat d'une attente passive, du maintien d'un statut, ou que Dieu nous remplisse de son esprit sans une recherche active de ce remplissage, rendu possible par un attachement au Christ et une soif permanente, constante. Vous puiserez avec joie aux sources du salut, de temps en temps, constamment. À ce stade, nous pourrions nous questionner sur comment parvenir à faire le plein quotidien de l'esprit. Quelle serait la méthode ou quels seraient les points de ravitaillement? L'autre jour, j'ai monté dans la voiture d'un frère et il a une voiture électrique. C'est génial parce qu'il appuie sur une touche et ça dit tous les endroits dans la région où il peut aller se brancher avec sa voiture. Formidable. Mais vous, vous les connaissez les points de ravitaillement avec votre voiture, vous savez où vous allez pouvoir trouver l'essence, etc. C'est où les points de ravitaillement pour être rempli de l'esprit? Dans la suite d'Éphésiens 5:18, Paul nous conduit dans la bonne direction en nous disant comment cette plénitude de l'esprit se manifeste. Il ne dit pas qu'est-ce qui nous remplit, mais comment ça va se manifester. Et c'est très significatif. Écoutez bien. C'est à la suite, puisqu'on avait vu le verset 18, « Soyez continuellement remplis de l'esprit ». Et il continue en disant, au verset 19 jusqu'au verset 21, « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte du Christ. » Il suffit de regarder à l'événement de Pentecôte dans Acte 2, ils étaient ensemble, d'un même cœur, homotumadon, avec passion, à l'unisson, c'est-à-dire d'un seul esprit, d'un seul cœur, d'un commun accord, avec la même passion, unanimement, ils furent alors tous remplis du Saint-Esprit. Tous. L'obéissance à la parole, la communion fraternelle, qui consiste dans les prières fraternelles communes, les cantiques, les psaumes, les louanges, les actions de grâce, et la soumission les uns aux autres. C'est ainsi que la plénitude va se révéler. Si on voit ces choses se mettre en place, ça veut dire que la plénitude, elle est là, au moins dans la vie de ceux qui le vivent. Et qu'elle va aussi se réaliser. Parce que bizarrement, plus je vais me vider dans un investissement spirituel, et plus le Seigneur va me remplir. Plus je vais me vider dans un investissement charnel, et plus je vais être à sec. Soucie-toi du royaume des cieux et toutes choses vont être données par-dessus tout. Je vais combler les vides, moi. Si toi, tu t'occupes des choses du ciel. Quand nous nous entretenons par des psaumes et des chants spirituels, quand nous chantons et célébrons le Seigneur de tout notre cœur avec nos frères et sœurs, quand nous nous soumettons les uns aux autres, par exemple, dans le couple, parce que si vous continuez à lire, versets 22, 23, 24, que la femme soit soumise à son mari, que le mari aime sa femme, il y a tout qui arrive là derrière. Là. Faudra aller lire. Hein, parce que ça fait partie de la plénitude aussi, tout ça. Donc, quand nous nous soumettons les uns les autres, par exemple, dans le couple, dans la famille, au travail, comme Paul le déclare dans les versets suivants d'Éphésiens 5, quand nous rendons gloire à Dieu par et au travers de nos vies, la plénitude de l'Esprit vient s'accomplir en nous. Je ne suis plus en résistance. Je ne suis plus en blocage sur des situations. Je ne me soumets pas parce que j'ai envie que quelqu'un domine sur moi. C'est le Seigneur qui domine dans ma vie. Mais je me soumets par témoignage du Christ. Parce que c'est là que la plénitude va venir. Et si elle déborde de ma vie, elle jaillira. Sur ceux vers lesquels, bien volontiers, je vais baisser la tête. Si tu veux, frère, si tu veux, ma sœur, il n'y a pas de souci. Par motif de conscience et par motif de foi. Au lieu d'être dans la résistance, le combat, l'adversité, l'opposition, la rébellion, je préfère être dans la soumission. Et de voir l'esprit faire ce que moi je suis incapable de faire, je vous l'avoue. Beaucoup de chrétiens s'imaginent que lorsqu'on est rempli de l'esprit, on doit s'attendre à toutes sortes de manifestations spectaculaires et miraculeuses. Mais pas du tout, nous dit Paul. La réalité de la plénitude de l'esprit, c'est quoi? C'est le chant. La prière. J'ai envie de prier. Avant, j'avais pas envie. Là, j'ai envie de prier, j'ai envie de chanter. L'adoration, la gratitude, l'encouragement mutuel, la communion fraternelle, les relations humaines harmonieuses entre le mari et la femme, entre les parents et les enfants, entre le patron et ses employés. Voilà comment les chrétiens manifestent qu'ils sont remplis de l'esprit. Mais oui. Je suis rempli de l'esprit, chef. Vous allez voir, ça va, le ciel va s'ouvrir. Tu vas faire fuir ton chef. Frère, chef, vous voulez que j'ordonne au feu du ciel de descendre sur ces ouvriers-là? Au secours. Et voilà aussi pour eux une occasion de faire le plein. Lorsqu'ils nous voient nous remplis. Mais comment tu fais pour être aussi joyeux, aussi paisible? Ton caractère a changé, t'es plus le même homme, t'es plus la même femme. Comment alors un croyant peut-il être rempli de l'Esprit? Paul ne nous dit pas dans Éphésiens 5 quelles sont les étapes ou les critères nécessaires pour être rempli de l'Esprit. Mais nous savons par d'autres textes bibliques que pour être rempli de l'Esprit, ça va aller vite, il faut confesser et ôter tous les péchés connus dans notre vie. Faire sortir. Deuxièmement, nous abandonner entièrement à son autorité, c'est-à-dire obéir à Dieu et à sa parole. Cela implique l'abandon de notre volonté, de notre raison, de notre corps, de notre temps. De notre corps, ça ne veut pas dire qu'on se lave plus. Hein. De notre temps, de nos dons, de nos richesses. Toutes les parties de notre vie doivent être dominées par l'Esprit. Ça ne veut pas dire qu'on mange plus, qu'on se lave plus, qu'on ne fait plus rien. Mais c'est lui qui le contrôle. C'est plus nous. Troisièmement, que la parole de Christ demeure en nous dans toute sa richesse implique la lecture et l'étude de la parole ainsi que d'y obéir. Quatrièmement, finalement, il nous faut nous vider de nous-mêmes. Galates 2:20, pour qu'une coupe puisse être remplie, elle doit d'abord être vidée. Si nous voulons être remplis de l'Esprit, il nous faut d'abord nous vider de nous-mêmes. Pas possible autrement. Et en allant à la rencontre de tout ce qui est fait pour nous remplir, si nous allons à l'encontre de tout ce qui est fait pour nous remplir, nous pouvons attrister le Saint-Esprit. D'ailleurs, Paul en parle au chapitre d'avant, dans Éphésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit. Si nous lui résistons, nous l'attristons. Aussitôt, le niveau de l'Esprit en nous baissera. Le Saint-Esprit ne va pas sortir, mais son niveau va baisser. Pour retrouver la bénédiction perdue, que va-t-il falloir faire ? Il faudra une fois de plus confesser notre péché, croire au pardon et saisir à nouveau par la foi la plénitude de l'Esprit. Si la confession a suivi immédiatement la faute, parce que parfois entre le moment où on fait la faute et le moment où on se confesse, il y en a du temps. Mais si la confession a suivi immédiatement la faute, Satan n'aura pas eu le temps d'exploiter notre défaite et nous pourrons aussitôt reprendre notre marche en avant. Le problème, c'est que nous restons tellement longtemps sans armure, sans bouclier. Et nous croyons que nous pouvons aller dans le monde sans que l'adversaire ne puisse nous atteindre alors qu'on est désespérément vide et démuni. Pour conclure, dans Jean chapitre 7, verset 37, Jésus va dire, et c'est à la fête de Jérusalem, alors qu'on demande à un prêtre de prendre de l'eau de la fontaine de Siloé, de l'amener et de la déverser sur l'autel, Jésus se tient debout au milieu de la foule. Et il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il sera tellement rempli. C'est pas un ruisseau, c'est pas une rivière. C'est des fleuves vont couler de son sein. Comme le dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jésus dit, celui qui a soif, qu'il vienne à moi. Si quelqu'un a soif, si nous avons soif de pardon, de plénitude, de victoire, de puissance, prenons courage, nous serons pleinement désaltérés. Qu'il vienne à moi, disait Jésus. Un homme, une femme, quel qu'il soit, ne pourra jamais nous satisfaire ni nous sauver. Jamais. C'est à Jésus qu'il nous faut aller à tout prix, à lui seul. Il est la source d'eau vive et qu'il boive. Si tu as soif, viens à moi et bois. Et c'est souvent sur la dernière que certains chrétiens, j'ai soif, je viens à Jésus, mais je bois pas tout le temps. Je bois de temps en temps. De temps en temps, j'ai un petit frisson là. Oh, ce matin, j'ai bu un bon petit verre à l'église, hein, c'était bien. Qu'ils boivent. Pour être désaltérés, il ne suffit pas de demander à boire et de regarder la boisson. Ça ne sert à rien. Il faut absolument la boire, c'est-à-dire la prendre, se l'approprier. Pour un peuple assoiffé, pour des adorateurs se tenant dans la vérité, les résultats de la plénitude de l'Esprit seront à la hauteur de Dieu. La plénitude de l'Esprit dans nos vies, accorder plus de place à l'Esprit en nous, qui va faire écho à toute la parole de Dieu, va porter non pas les résultats qui sont les nôtres, mais les résultats de Dieu. Car la plénitude de Dieu n'a pas d'autre but que la gloire de Dieu et non la nôtre. Bien sûr que c'est une marque d'amour de Dieu, mais avant tout, Dieu vise sa gloire. Si elle est établie en nos vies, c'est pour nous permettre d'œuvrer à l'annonce et à l'établissement du royaume de Dieu au milieu des hommes, et donc permettre à l'Église d'accomplir sa mission. Elle demeure néanmoins une expression de l'amour de Dieu en notre faveur, en faveur de son peuple, de ses enfants, car par cette plénitude, Dieu souhaite nous combler de l'abondance qui est la sienne en nous témoignant de sa grandeur et pour sa gloire. On a trop souvent vu la vie de l'Esprit comme quelque chose qui est que pour nous, dans une démarche très individualiste. Tellement on vit dans un monde qui est individualiste, l'Esprit, on se l'est approprié d'une manière très individualiste. On a fait notre collection, on a regardé notre niveau. On paye pour avoir ça, pour avoir ça, pour une prestation spirituelle aussi ou ça, pour s'en sortir à peu près. Il n'a pas envoyé l'Esprit pour ça, vous savez. Quels seront les résultats de la plénitude de l'Esprit, vous voulez le savoir? C'est simple. Vous lirez dans Actes 2,47, croissance de l'Église. Ils étaient remplis du Saint-Esprit, l'Église va se mettre à croître. Le Saint-Esprit rajoutait chaque jour ceux qui avaient cru. Ça devint une multitude. Ils n'ont pas adhéré à une méthode. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la croissance? Non. Ils se sont contentés d'être connectés à l'Esprit. Et les choses se sont faites par l'Esprit. De l'assurance dans le témoignage, Actes 4,31. Dieu remplissait leur bouche de paroles merveilleuses. La puissance surnaturelle. Il se faisait toutes sortes de prodiges et de miracles. Une puissance surnaturelle, on n'a jamais vu ça. Les boiteux marchent, les sourds entendent, les muets parlent, les aveugles voient. Et la sagesse devant les adversaires. Ils n'étaient pas à rendre coup pour coup. Mais Dieu mettait en eux toute la sagesse nécessaire pour affronter l'opposition, pour affronter l'adversité. Ils n'étaient pas dans la panique. Ils n'étaient pas dans l'agitation. Ils n'étaient pas dans les esclandres. Ils ne faisaient pas retentir leur voix dans les rues, dans des cris de terreur ou dans des cris pour faire des situations de crise. Non. Comme le maître. Ils savaient faire taire leur bouche quand il le fallait. Mais à d'autres moments, ils savaient dire les choses quand il le fallait aussi. Je terminerai sur cette citation de Spurgeon. Le Saint-Esprit dont nous recevons l'onction pour tout service saint, parce que pour servir le moindre service, il faut que l'Esprit soit là. Le Saint-Esprit dont nous recevons l'onction pour tout service saint nous est indispensable si nous voulons servir le Seigneur de manière acceptable. Acceptable, hein, vous avez vu le mot? C'est-à-dire qu'il puisse au moins l'accepter. Sans son aide, nos services religieux, nos rencontres ne sont qu'un vain sacrifice. Et notre expérience intérieure n'est qu'une chose morte. Nous avons l'apparence de la piété, mais nous avons renié ce qui en fait la force. Et à votre avis, qui fait la force de notre piété, si ce n'est pas l'Esprit Saint dans nos vies, qui vient nous renforcer là où nous sommes tellement faibles? Réalisons que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, est un esprit de plénitude qui ne peut se contenter de remplir seulement une partie. Ton cœur est-il entièrement ouvert à la plénitude de Dieu? Ton cœur est-il entièrement ouvert à la plénitude de Dieu? Dieu veut faire croître en nous avant de faire croître autour de nous. Dieu est prêt à élargir l'espace de notre tente, mais voulons-nous élargir l'espace de notre cœur? Acceptons-nous qu'il fasse ressortir certaines choses de nos vies? Acceptons-nous ce travail intérieur pour qu'il puisse prendre plus de place et encore davantage de place, pour qu'il nous amène à plus de maturité dans la vie spirituelle, à ne plus céder aux agitations, aux émotions, à toutes ces choses qui en réalité nous pourrissent tellement la vie que je me demande des fois, mais pourquoi on s'y attache autant et pourquoi on est toujours autant à faire du surplace? Au point où nous en sommes, disait Paul, avançons d'un même pas. Faisons un pas de plus dans la direction de Dieu. Acceptons ce qu'il est en train de faire, pas demain, aujourd'hui, maintenant. Il est à l'action, il travaille. Un pasteur avait dit un jour, le Saint-Esprit, c'est le ministre de l'intérieur. Il travaille à l'intérieur. Et parfois, le ministre de l'intérieur se sert de toutes ses forces pour travailler à l'extérieur. Et il y en a de la force dans le ministère de l'intérieur. Aujourd'hui, le ministère de l'intérieur dans notre pays, il regroupe toutes les forces de police, de gendarmerie. Il a la main aussi, vous savez sur quoi? Les cultes. C'est le ministre de l'intérieur qui régit les cultes. C'est bizarre hein, de mettre les cultes avec la police. Eh bien moi, je voudrais que le Saint-Esprit dans ma vie, il puisse être mon vrai ministre de l'intérieur, qu'il régisse mon culte, et puis qu'il fasse œuvre de police en moi, qu'il puisse mettre de l'ordre, qu'il puisse maintenir l'ordre dans ma vie. Et s'il accomplit ces choses, alors il prendra davantage et davantage de place dans ma vie. J'aimerais tellement qu'il le fasse dans nos vies à tous. C'est ma prière pour vous, au nom de Jésus-Christ. On va courber les fronts ensemble.